Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches, « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, chers amis, il existe quelque part en terre d'Israël une petite colline qui fut promise à un grand destin. Elle avait reçu le nom de Sion et devint le lieu choisi pour y bâtir la ville de Jérusalem. Dès lors, elle reçut une vocation nouvelle et singulière, celle de poumon spirituel du peuple de Dieu tout entier, non seulement les croyants qui habitaient à proximité, mais aussi tous les autres. On appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né, chantera le psalmiste qui célébrera cette ville comme la cité du grand roi. Tous les regards et tous les cœurs convergeaient en effet vers le temple de Jérusalem, qui était reconnu comme la demeure de Dieu au milieu des hommes. Plusieurs fois dans l'année, les pèlerins accouraient de toutes parts et montaient les marches qui conduisaient jusqu'au temple pour y honorer le roi des rois, duquel ils avaient conscience d'avoir tout reçu. C'est la même royauté que nous célébrons ensemble en ce dernier dimanche de l'année liturgique. Il nous est d'abord proposé d'emprunter un petit détour par l'expérience humaine du pouvoir royal tel que les textes bibliques la décrivent. La figure qui se détache de toutes les autres, à la fois discrète et imposante, est celle du roi David. En apparence, rien ne prédestinait ce petit garçon à devenir celui que Dieu choisirait pour gouverner son peuple. Ni son ascendance familiale, ni ses qualités physiques ou morales, ni son ambition personnelle. De surcroît, les 12 tribus d'Israël avaient vécu longtemps de manière indépendante les unes à l'égard des autres, n'éprouvant aucun désir de recourir, comme les autres peuples, à l'autorité d'un roi. Le rôle des prophètes et des juges leur semblait suffisant pour grandir dans la foi et pour scruter la volonté de Dieu. En définitive, c'est Saül qui devint roi, jusqu'au moment où sa folie imposa de lui désigner un successeur, car cette monarchie n'était pas héréditaire. Et c'est donc le jeune David, un petit berger de Bethléem, qui se trouve choisi et qui reçoit l'onction royale, ce qui lui confère alors le titre de Messie. Dans la première lecture, nous avons assisté au moment précis où il devient roi des deux royaumes réunifiés, Israël, le royaume du nord, et Juda, le royaume du sud. Le Seigneur, nous l'avons entendu, lui confie une mission précise, celle d'être berger, c'est-à-dire de guider son peuple, non pas en son nom propre, mais au nom de celui qui l'a envoyé, au nom de Dieu lui-même. La mission s'annonce exigeante, peut-être même au-dessus des forces humaines. Elle demeurera donc inaccomplie, ce qui entretiendra l'attente du Messie véritable, celui qui sera capable de rendre Dieu accessible à tous. C'est encore à Bethléem, à l'écart de la grande cité et à l'abri des regards, que naîtra un nouveau Messie. Non plus un Messie après beaucoup d'autres, mais le Messie véritable, celui que tous attendaient, celui qui révélerait la présence réelle de Dieu au milieu des hommes. Sitôt après sa naissance, les mages se prosterneront devant lui et déposeront à ses pieds de l'or en reconnaissance de sa royauté. Plus tard, Jésus parlera souvent du royaume de Dieu en trouvant des images qu'il développera dans de nombreuses paraboles. En ce jour de fête, c'est pourtant une scène inattendue et paradoxale qui est proposée à notre contemplation. Nous sommes à la sortie de Jérusalem, sur une colline proche du mont Sion. Au sommet du Golgotha, Jésus est crucifié entre deux malfaiteurs, sous la bonne garde des soldats romains et les ricanements hostiles de la foule. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Le roi semble déchu et humilié. Que lui reste-t-il à dire ou à entreprendre? Rien en apparence. Soudain, au milieu du vacarme, s'élève une voix en forme de prière. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Dans ce moment de ténèbres, c'est un larron qui prononce une parole de foi et qui reçoit en retour cette promesse existentielle « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Notre roi est sur le point de mourir, mais son pouvoir s'étend au-delà de ce monde. Il ne règne plus seulement pour quelques-uns ni pour un petit territoire, mais il est roi de l'univers. En définitive, la question se pose de savoir ce que la royauté du Christ nous invite à vivre ici et maintenant. Peut-être pouvons-nous alors reprendre ces quelques mots par lesquels saint Paul introduit sa lettre aux Colossiens. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, Dieu le Père nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Paul s'exprime au passé afin de souligner que nous sommes déjà entrés dans le royaume que Dieu a préparé pour nous, afin que nous y recevions le pardon de nos péchés. Ce royaume ne désigne donc pas d'abord une perspective encore lointaine que nous pourrions espérer, mais il désigne l'expérience même de la foi, la rencontre personnelle avec Jésus, qui se révèle à nous de multiples manières. Dans la préface eucharistique de cette messe, nous entendrons parler tout à l'heure du règne éternel et universel du Christ, règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Tant de réalités dans le monde et en nous-mêmes s'opposent à la vie et à la vérité, à la sainteté et à la justice, à l'amour et à la paix. Mais nous avons aussi la capacité et la liberté, ainsi que cette fête nous le rappelle, de contribuer dès à présent à planter les semences du royaume de Dieu. Ce royaume, écrivirent les pères du Concile Vatican II, il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Et nous comprenons bien, frères et sœurs, qu'il nous revient dès maintenant d'en être les témoins et les reflets aussi fidèles que possible. Amen.